Star Wars en direct vous est présenté par SiteClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com.
Bienvenue à cette 16e émission de Star Wars en direct, édition Clone Wars. Cette semaine, nous discutons du 19e épisode, Storm Over Ryloth. Cet épisode a été écrit par George Christick et réalisé par Brian Kaline O'Connell. Au niveau de la distribution, nous retrouvons James Arnold Taylor dans le rôle de Obi-Wan Kenobi, Matt Lanter pour Anakin Skywalker et Corey Burton pour Mark Turk. Voici un court résumé de l'épisode. La planète Ryloth est assiégée par les forces séparatistes de Wat Tambor. Le blocus semble impénétrable et le némoïdien en charge semble s'y connaître. Ahsoka, dont c'est le premier commandement, a pour tâche de pénétrer le blocus, mais sa mission échoue et elle perd la plupart de son escadron. Malgré ce retard, le blocus doit être détruit pour permettre aux forces de Obi-Wan Kenobi et de Mace Windu d'accéder à la planète. Un plan est alors mis en création. L'équipe de Star Wars en direct a commenté cet épisode et voilà notre discussion. Bon bah alors, bonjour Dany.
Bonjour.
Ça va bien de l'autre côté de l'Atlantique?
Parfait, tout va bien.
Et on a notre collègue de SVU, Gaspard.
Bonjour. Bonjour, bonjour.
Ça va aussi de ton côté?
Ah oh bah, ça va bien, oui.
Donc j'imagine que tout le monde a vu Storm Over Ryloth, le premier épisode de la trilogie.
En effet.
Mm-hmm. Voilà. Sûrement un des meilleurs de la saison.
Un des meilleurs. Peut-être pas le meilleur, mais oui, un des meilleurs.
Je pense qu'il n'a pas beaucoup de défauts. Alors cette semaine, la devise, enfin le Fortune Cookie, se nomme « Seuls les chemins tortueux mènent à la grandeur ». Donc je pense que ça se réfère à Ahsoka qui doit y aller par plusieurs chemins pour réussir sa mission.
Mm-hmm. Définitivement.
Ouais. Elle doit perdre son escadron et retrouver le courage de trouver un second plan pour prendre du... De la maturité?
Ben c'est ça. Dans le fond, c'est la route est difficile si tu veux être si tu veux exceller. Comme dans tout sport ou dans toute discipline, il faut que tu aies de l'expérience, donc.
Ouais, exactement.
Donc comme premier commentaire, moi je dirais que bon, c'est un très bon début à la trilogie. J'ai adoré le fait, ben moi j'aime beaucoup les batailles spatiales, donc déjà au départ c'est une excellente bataille spatiale, puis on a enfin pu voir de l'émotion de Ahsoka, puis qu'en fait elle n'est pas parfaite, donc on a pu enfin voir que c'est pas super padawan toujours.
Elle s'est mouchée. Alors le long résumé, la planète Ryloth est assiégée par les forces séparatistes sous les ordres de Wat Tambor, le chef du technosyndicat. Alertée, la République se rend dans le système pour forcer le blocus contrôlé par le capitaine némoïdien Mar Took, un fin stratège. Mais en attendant, une partie de la flotte républicaine menée par les maîtres Jedi Obi-Wan Kenobi et Mace Windu, c'est à Anakin Skywalker, à Ahsoka Tano et à l'amiral Yula Ren de forcer le blocus pour atteindre la planète. La survie du peuple Twi'lek dépend d'eux. C'est ainsi l'occasion pour Ahsoka d'assurer son premier commandement. À la tête d'une escouade de 10 V-19 Torrent à l'attaque. Le Némoïdien répond en envoyant l'intégralité des chasseurs vautours. Voyant que l'attaque va probablement rater, Anakin demande à Ahsoka de revenir sur le Resolute, mais la jeune Padawan est persuadée de réussir. Après avoir perdu quelques chasseurs, Ahsoka réalise que son maître a raison et se décide de faire demi-tour à contre-cœur. Mais il est trop tard, plus de la moitié de son escadron a péri durant l'attaque et la jeune fille est dévastée en revenant dans le Resolute. Skywalker tente tant bien que mal de la consoler. Les séparatistes sont bien trop nombreux et la flotte républicaine est obligée de se replier. Sauf que Mar Turk sait que Skywalker reviendra en force et prépare ses forces pour affronter un nouvel assaut. Donc je pense que c'est le premier grand arc, enfin premier acte de l'épisode sur c'est vraiment la première moitié.
Mm-hmm. Moi, qu'est-ce que je dirais par rapport, je dirais, en partant, le barrage, là, le siège, au départ, je me disais, pourquoi qu'ils ont juste un control ship pour pour bloquer la planète. Donc, c'est le fait plus tard qu'on a vu que c'était un piège, dans le fond. Il attendait de pied ferme la République, donc j'ai été d'accord par rapport à ça. Mais j'ai réfléchi un peu après, puis ça m'a rappelé la menace fantôme, que oui, au début du film, il avait envoyé plusieurs gros control ships, comme on voit les espèces de beignes, là, les...
les beignets.
Ouais, c'est ça.
Les donuts.
Les donuts. Puis à la fin, quand ils reviennent plus tard, il y en a un seul. C'est parce que la planète est occupée, donc t'as plus vraiment besoin d'arriver avec une aussi grande force quand la planète est déjà occupée, comme dans le cas présent, la planète est déjà occupée, donc t'as pas besoin d'avoir autant de protection. Mais on voyait qu'il y avait des vaisseaux pas trop loin, parce que ça n'a pas été très très long et qu'ils ont eu quatre frégates en renfort en le temps de le dire. Donc peut-être qu'ils étaient tout simplement de l'autre côté de la planète ou peu importe.
Sûrement. Des choses comme ça. Ou alors du système, parce que tu sais. De toute façon, le temps dans Star Wars, hein, c'est là où ils étaient, peut-être qu'ils étaient au bout de la galaxie.
Ouais. Mais le temps de voyagement dans l'hyperespace peut être long. C'est certain qu'ils peuvent être très près, mais en dehors de la limite de détection de la République, là, peut-être, mais ils devaient pas être en arrière de la planète parce qu'ils peuvent pas passer au travers avec l'hyperespace, donc c'est un micro saut en hyperespace, mais qui, je sais pas d'où il venait, là, donc.
Je crois qu'on le saura jamais. on voit Ahsoka qui se prend une raclée. Alors, on la voit quand même désobéir, c'est que ça m'étonnait quand même au bout d'un moment de voir Ahsoka continuer, parce qu'elle est jeune quand même, même si elle pense qu'elle va réussir, et l'amiral puis Anakin qui lui demande de rentrer.
Ben ça, je dirais, c'est plus le fait que elle a Anakin comme modèle. Anakin fait toujours ça, fait toujours à sa tête, donc elle a cru bon de c'est pas grave, je vais m'en sortir.
Non, mais après, donc on la voit perdre son escadron, elle commence à se dire que quelque chose ne va pas, qu'il faut peut-être mieux rentrer. Mais bon, il est un peu trop tard pour ça.
J'ai aimé beaucoup le chef Nimoidien, capitaine Martuk.
Oui.
Martuk, ouais, je pense que c'est ça. Donc, au début, je me demandais c'est quoi qu'il avait sur les yeux. Mais je me suis rappelé dans la menace fantôme, je pense que c'est quand le droid control ship explose à la fin du film. On en voit un Nimoidien qui a ça sur les yeux. À la menace fantôme, une fraction de seconde. Donc,
fais attention.
Ça doit être.
Tu parles de la petite boule rouge et bleue ou des lunettes peu bizarres?
Les lunettes.
Ah, les lunettes, ah oui.
Ouais.
Donc, ah oui, les lunettes un peu d'œil de mouche.
Ouais, ben, peut-être qu'ils ont des trucs qui visuels de tactique, là, qu'ils peuvent voir, là, toutes sortes de statistiques, etc. Mais j'ai bien aimé le fait que le capitaine prend au sérieux ses adversaires, jusqu'au point d'étudier leur style ou leur style d'attaque ou peu importe. Comme là, il a décidé d'étudier Anakin, voir le genre d'attaque qu'il fait d'habitude. Ça me faisait penser un peu à l'Amiral Thrawn dans les livres, qui lui étudiait les arts d'une race, ou c'était plus du côté artistique, qu'il pouvait découvrir la faille chez ses adversaires par la culture et l'art. Mais dans ce cas-ci, c'était quand même un stratège intelligent. Ça fait différent d'avoir un vilain qui est... Bon, dans le fond, on a plein de nouveaux vilains qui sont autres que Ventress et Grievous, mais ils sont toujours incompétents, sauf peut-être celui-ci.
Ou mort.
Ouais, ou mort, là, mais je veux dire, c'est ça. Mais ils sont toujours incompétents, tandis que, enfin, on voit un capitaine qui réfléchit. C'est certain que la stratégie d'avoir un vaisseau qui fonce sur toi puis de pas le voir, c'est normal. Quel capitaine de vaisseau va être capable de prévoir que son adversaire va lui foncer volontairement dessus? Tu sais, c'est parce que c'est pas logique. Nous, on le sait parce que bon, il y a plusieurs films, etc., qui ont déjà eu cette idée. Mais je suis certain que en temps de guerre, peut-être à part dans le temps des Romains, où est-ce qu'il y avait des navires faits pour foncer sur les gens, là. à telle époque où est-ce qu'il y avait les grands voiliers, je suis pas certain qu'un capitaine s'attendait à ce que l'adversaire fonce elle risque son équipage et son navire en simplement en fonçant sur son adversaire. Donc, c'est certain que c'est pas la première idée qui te vient en tête, mais il s'en est rendu compte rapidement.
Mais c'est ce qui m'a dit, même si c'est vrai qu'il peut pas tellement prévoir, je me dis que quand même, s'il a bien étudié le dossier de Anakin, il sait que c'est un Jedi qui aime un peu les pièges et tout ça, donc pourquoi il s'est vraiment pas, moi, j'aurais pu penser qu'il aurait pu se douter de quelque chose, qu'il arrive tout d'un coup tout seul dans son vaisseau à se rendre. C'est un peu gros, je pense.
Oui.
Il se laisse avoir quand même.
Ouais, non, mais j'avais au moins un petit commentaire. Je vais être un peu pointilleux sur cet épisode qui est quand même très bon, mais c'était surtout sur le rapport de force encore une fois. Alors même si c'est une série entre guillemets pour enfants, c'est vrai que je suis en train de me demander qu'est-ce que Ahsoka aurait pu changer avec ses 10 chasseurs si elle était revenue à temps, vu qu'il sait que dans la fenêtre de 5 minutes entre le moment où elle était partie vers les vaisseaux séparatistes et où elle est revenue, on avait déjà un Star Destroyer de détruit, un autre amoché. Alors avec 10 chasseurs, est-ce qu'elle aurait vraiment pu changer quelque chose ou pas?
En plus, quand on y repense, il y avait beaucoup plus de chasseurs vautours qui sont envoyés dans l'espace, on en voit au moins une cinquantaine presque.
Ouais, la seule différence que je verrais, c'est que si vous avez remarqué, les Vulture Droids, les droïdes vautours, ils faisaient les kamikazes sur les... ils fonçaient carrément sur les frégates. Et puis, si les chasseurs seraient revenus, ils auraient pu défendre un petit peu les vaisseaux. Étant donné que tous les chasseurs étaient partis, je dirais l'escadron principal de chasseurs était parti, les frégates pouvaient pas se défendre à courte portée ou.
Et puis, effectivement, mais en même temps, pour que ça soit fini aussi vite et qu'il y ait, enfin, finalement, on avait l'impression qu'il y avait que 10 chasseurs pour la République. Mais c'est vrai que ça aurait pu faire une différence. Mais je pense qu'il y aurait toujours eu un vaisseau de perdu de toute façon. Hein.
Mm-hmm. Mais c'est encore.
D'ailleurs, on peut y penser, une petite référence encore à la trilogie, c'est le chasseur vautour qui se précipite sur le pont. Ça rappelle un peu l'exécuteur.
Ouais. C'est ça. Sauf que là, la différence, c'est que l'exécuteur, lui, avait perdu ses boucliers. Donc, le fait que le A-Wing ait foncé dans le bouclier a fait que l'exécuteur a perdu son pont de commandement. Tandis que lui, juste avant, il a mentionné, mettez les boucliers en avant. Donc, ça a probablement permis au pont de survivre, sinon Anakin et Uralin seraient morts tous les deux, là.
Oui, on voit la vitre qui tient le coup.
C'est ça. Ah oui, l'autre point que je peux essayer d'amener par rapport à une force d'attaque pour aller libérer la planète, c'est, il me semble qu'ils sont arrivés avec peu de force pour aller libérer la planète. Ils avaient 3 frégates, d'accord. Mais ils avaient quoi? Un escadron de chasseurs et puis un escadron de bombardiers. C'est vraiment minime pour libérer une planète.
Ouais. En même temps, ils étaient juste censés ouvrir un trou, entre guillemets, sur le blocus. Mais c'est vrai qu'avec 15 chasseurs, ça allait pas faire grand-chose comme trou. Mais...
Peut-être qu'ils s'attendaient pas à ce que il y ait 4 frégates supplémentaires. Là.
Surtout que c'est marrant parce qu'ils attendent en plus l'arrivée de Obi-Wan et de Mace Windu. Pourquoi on a l'impression qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser les vaisseaux qui doivent arriver? Parce qu'ils ont pu avoir une puissance de feu pour aider. On a l'impression qu'ils doivent détruire le blocus avant que les gros vaisseaux arrivent, alors qu'ils peuvent pas atterrir avec les gros vaisseaux sur la planète.
Ouais, disons qu'en plus l'effet de surprise est perdu. L'effet de surprise, c'est certain que si tout le monde arrive en même temps, t'as l'effet de surprise, mais la deuxième vague, ils peuvent s'attendre à ce qu'il y ait une deuxième vague, là, si la première ne fait que venir détruire ce qui est en orbite. Donc,
Oui, mais ils auraient pu quand même venir les aider, faire jouer leur gros vaisseau quand même un petit peu. Hein. Mm-hmm. Oui. Alors qu'ils disaient, faut qu'on détruise le blocus avant l'arrivée de Obi-Wan et de Mace Windu, alors que bon. J'ai trouvé ça un peu bizarre sur le coup.
J'ai bien aimé que chaque clone, on nous les a présentés encore une fois, et puis que chacun avait un petit pattern différent sur son casque là, pour les identifier. On nous les a tous présentés, puis ils sont pratiquement tous morts, donc c'est un peu le même principe que dans la trilogie du Malevolence. On les avait vus, et puis il y en a quelques-uns qui sont morts en chemin, là.
J'aime bien aussi les phrases, petites phrases différentes pour dire qu'ils sont présents. C'est parce que j'ai jamais présent. Et j'ai toujours un petit commentaire qui va avec.
Ouais, c'est vrai.
D'ailleurs, ça me fait penser. Tu parles des clones qui ont des marques différentes. Ça me fait penser aussi aux ils sont encore amusés avec les dessins sur les côtés des gunships. Mm-hmm. Je sais plus exactement ce qu'on voit, mais il y en a quelques-uns qui sont amusants.
Ben, je pense qu'il y en a un qui est exactement le même d'après qu'est-ce que sur StarWars.com, qui est le Lucky Leku. Et c'est un de ceux qui a une Twi'lek dessus. Vu que c'est encore dans le Resolute, donc c'est le gunship a le même, la canonnière a le même nom.
Je crois qu'il y en a un, si je me souviens bien. En fait, c'est un clone qui tient une tête de droïde, un truc du genre.
C'est très possible.
Je n'ai pas fait attention aux grands détails, c'est juste que évidemment, j'ai vu l'épisode, donc je me concentrais sur autre chose. Mm-hmm. C'est que ça m'a un petit peu attiré l'œil.
Ben c'est ça, dans la même veine de ce que tu dis. Bon, Anakin a vraiment son rôle de maître à ce moment-ci. Là, on voit la dynamique maître Padawan qui est vraiment mieux maintenant au lieu de ce qu'on avait auparavant qui était plus une idolation d'Ahsoka envers Anakin. Maintenant, on voit bien qu'elle a du remords par rapport aux troupes qu'elle a perdues. Ça aurait été bien que à partir de ce moment-ci jusqu'à la fin de la saison, on verrait qu'Ahsoka est vraiment découragée puis qu'elle ne voudrait plus être un Jedi par exemple, puis dans saison 2 on aurait pu la revoir revenir lentement. Ça aurait pu être un bon climax de fin de saison là, peut-être là.
Oh, je pense pas que c'est une assez revanche pour qu'elle se décourage.
Ouais.
Faut bien qu'ils acceptent un peu les échecs, les Jedi, parce que sinon, il y aura plus grand monde.
Ouais. C'est certain.
Par contre, j'ai trouvé que, quand même, même si Anakin a fait son rôle de maître et tout ça, j'ai trouvé qu'il lui remontait pas beaucoup les bretelles, finalement, parce que, est-ce que c'est parce qu'il la comprend, parce qu'il aurait fait la même chose, ou alors parce qu'ils ont pas voulu trop qu'il l'engueule, un truc comme ça, pour les enfants, je sais pas.
Peut-être. Mais bon, j'ai encore un peu de misère avec le fait que Ahsoka est commandant. Puis elle a quoi, 13 ans, oui. Je pense, dans la série Clone Wars?
14, je crois.
13-14.
J'ai pensé le dire tout à l'heure.
c'est immensément jeune, là, pour avoir autant de responsabilités. Même les clones, on le voit, ils hésitent. Ils mentionnent, ben, elle est pas comme Anakin, là, c'est certain. Elle a pas d'expérience. J'ai fait une référence un peu avec Ethan dans le premier Republic Commando. Je sais pas si tu t'en souviens, Henri. Elle était une jeune Padawan avec un maître et elle connaissait absolument rien comparativement au Ethan que dans le roman Order 66 qui a vraiment évolué complètement, qui est rendu vraiment une générale. Donc, on peut vraiment faire un parallèle avec Ahsoka dans ce cas-ci.
Ben d'ailleurs, Ethan n'est rien du tout, en fait, à part son maître est le général, enfin dans le premier tome, son maître est le général, je crois qu'elle a aucun titre, en fait.
Non, c'est ça. Elle est même pas chevalier Jedi, je crois. Là.
Ah non?
Il faudrait réfléchir, ça fait longtemps, là.
Déjà, je trouvais qu'évidemment, de nommer Anakin général en début de guerre, alors qu'il est tout juste chevalier, c'était un peu jeune, c'est sûr que donner un commandement d'une troupe quand même de chasseur à Ahsoka qui était encore plus jeune et encore moins d'expérience, c'est vrai que t'es
puis c'est
un peu exagéré.
C'est encore pire pour la deuxième partie de l'épisode car là elle donne pratiquement la flotte au complet à Anakin étant donné que l'amiral est blessé et inconscient. On va le voir revenir mais on voit qu'il donne une énorme responsabilité qui est vraiment au-dessus de ses connaissances. Même elle, on la voit paniquer. Elle fait comme chuchoter Anakin, Master, faites-moi pas ça.
ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre en dessous de Yula Ren pour prendre le commandement d'ailleurs.
Exactement. Mais bon,
il y a beau avoir Anakin qui est un général, mais bon, il y a l'amiral en dessous, mais en dessous de l'amiral, il y a bien des capitaines qui ont quand même plus d'expérience que la pauvre petite Padawan de 13 ans, hein, enfin 14.
Ouais. C'est certain. Mais les capitaines là, sont des clones aussi, la plupart, sauf peut-être l'amiral. Les clones ont quoi? Ils ont 10 ans d'expérience depuis leur naissance. Ahsoka a 13 ans. Sauf que certains, elle n'est pas entraînée en stratégie de guerre. Là. C'est des gardiens de la paix, quand même, des diplomates. Mace Windu, je me souviens plus c'est dans quel film qui dit ça. Je pense que c'est Revenge of the Sith ou quelque chose. Il dit « We're keepers of the peace, not soldiers ». On est des gardiens de la paix, pas des soldats.
Épisode 2.
Mais bon, c'est certain qu'on peut reculer dans l'univers étendu. Puis dans le temps de la guerre des Sith, ben là toutes les Jedi étaient des guerriers puis des généraux là. Bon, fait que
bah oui, on peut s'interroger sur le statut des Jedi dans cette série, mais après est-ce qu'ils ont plus voulu se centrer sur justement les Jedi par rapport aux autres commandants?
Parce que je pense pas non plus que les Jedi, même les maîtres Jedi, dans leur vue, étant donné que la République était relativement en paix dans l'époque qu'on était, je pense pas qu'ils ont, même les généraux comme Obi-Wan, même Mace Windu, ont pas vécu vraiment de grosses guerres de leur époque. Peut-être que Yoda, oui, mais les autres qui ont peut-être maximum 100 ans, n'ont pas vécu de guerre. Donc, est-ce qu'il y a des cours particuliers à l'Académie Jedi pour enseigner la stratégie de guerre? J'en doute.
Ça m'étonne.
Donc, c'est vraiment tous les Jedi apprennent sur le fait, sauf que peut-être ceux qui sont plus âgés, qui sont plus près de la force, apprennent plus rapidement ou ont plus de maturité, tout simplement.
Ça me fait repenser un peu de tout ça, que tu me parles des Jedi et tout ça, ça me fait repenser un peu à ta théorie du fait que c'est des holodramas avec la guerre des clones et qu'en fait ils donnent plus de pouvoir aux Jedi pour montrer qu'ils sont les plus forts, les plus gentils, les plus efficaces et tout ça.
Enfin, ça reste un peu dans la philosophie qui mentionne dans Wild Space là, que Yoda puis Mace Windu font graduer des Jedi le plus vite possible pour avoir, parce qu'ils n'ont de besoin pour la guerre des clones. Donc bon, Ahsoka elle, un grand commandement très tôt, en jeune âge, donc.
De son côté, Anakin ne perd pas espoir dans sa padawan et lui donne un nouveau commandement. Elle doit trouver un plan pour distraire les croiseurs ennemis pendant que son maître fournira également une distraction en pilotant seul le Defender. Anakin fournit un plan très audacieux, mais les clones n'y croient pas trop. C'est avec l'aide de l'amiral Yularen que la solution sera adoptée. Le Defender sort de l'hyperespace et les séparatistes mettent du temps à réaliser qu'il est vide, à l'exception de Anakin. Il réalise trop tard sa technique, se servir du gigantesque vaisseau spatial comme d'un bélier. Le vaisseau de contrôle séparatiste est détruit, laissant que des croiseurs ennemis. La flotte de Ahsoka arrive à ce moment, et elle se sert du Resolute comme d'une protection pour les V-19 qui vont s'en prendre aux ennemis. Mar Turk, comprenant que c'en est fini de lui, s'enfuit, laissant les droïdes de combat aux commandes. Ces derniers se demandent quoi faire, mais finissent par tomber dans le piège tendu par la République. Les croiseurs sont détruits, et c'est à ce moment-là qu'arrivent précisément les renforts menés par Akenobi et Windu. Les forces républicaines peuvent alors atteindre Ryoth. Donc, je crois ne pas me tromper, mais la technique d'Ahsoka, je crois avoir lu ou entendu dans le commentaire de Filoni, c'était la technique marge sable de Thrawn, justement, en plus. On en parlait de lui tout à l'heure.
Oui, dans Heir to the Empire, les héritiers de l'Empire. Ça non plus, ça m'a surpris beaucoup, parce que ça fait énormément longtemps que j'ai lu ce roman. Et donc, quand je l'ai vu, ils l'ont même surligné dans le vidéo commentaire sur StarWars.com. Ils l'ont surligné l'extrait. C'est comme deux lignes pour qu'on puisse le voir. C'était une bonne idée de ramener des choses comme ça.
Surtout que c'est vraiment une référence très précise à lui, en plus.
Mais l'efficacité de ce système-là, enfin, je ne crois pas que c'était exactement pareil. Si je regarde ce que Filoni mentionnait, le Star Destroyer avait été de côté et puis les TIE Fighters sortaient d'en dessous de face. Donc c'était seulement pour protéger le pont, j'imagine, là.
Mais ils ont amélioré la technique entre-temps.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est mieux de ce genre-là, parce que c'est comme pour les entourer, les flanquer, là, et arriver par le côté plus. Mmh. Donc, la chose qui est le fun, on parlait de l'univers étendu, c'est que, je pense pour la première fois, on voit que les Y-Wing, ou ben les prédécesseurs des Y-Wing, sont des bombardiers. Vraiment, ils mentionnent « envoyer les bombardiers ». Si tu s'en vas dans Un Nouvel Espoir, le premier film de Star Wars, ou même dans tous les films de Star Wars, jamais on ne la mention que les Y-Wing sont des bombardiers. On voit des X-Wing qui lancent des torpilles, des Y-Wing qui lancent des torpilles. Il n'y a pas vraiment une explication de ces vaisseaux-là, plus en particulier, sur leur rôle principal. Tandis que dans celui-ci, on le voit, t'as les chasseurs qui sont les Torrent, malgré qu'on les voit à la fin aussi bombardés, mais ils mentionnent envoyer les bombardiers, puis on voit que c'est les Y-Wing qui sont envoyés. Donc, je pense que c'est la première fois, autre que dans l'univers étendu, qu'on le mentionne, cette chose-là.
D'ailleurs, je pense que dans la trilogie, on voit pas tellement, en fait, on voit pas de vaisseaux des rebelles avec des bombardes, qui bombardent. Et à part les T-Bombers impériaux, en fait, je crois que la rébellion n'a pas... Il n'y en a pas, en fait.
Non, mais c'est ça. Tu avais les Y-Wing, que dans l'univers étendu sont... Puis les B-Wing, qui sont, tagués, qui sont supposés être des bombardiers, sont aussi aux jeux vidéo, X-Wing et TIE Fighter, là, les jeux. Mais je veux dire, c'est pas... oui, c'est vrai que dans l'Empire Contre-Attaque, il y a des TIE Bombers, qu'on les voit, ceux qui ont deux sphères au centre qui bombardent l'astéroïde, là, pour essayer de trouver le Faucon Millennium, là. Mais je veux dire, à part ça, c'est vrai que sont pas tagués bombardiers en tant que tels, c'est des vaisseaux génériques, ils ont pas une association. C'est dans l'univers étendu qu'on apprend que c'est des bombardiers. On peut le deviner, mais bon.
Sinon, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les I-Wing, justement, ils détruisent très très rapidement les vaisseaux ennemis. On en voit 5 sur le vaisseau, il explose, alors que pour détruire le Defender piloté par Anakin, les séparatistes utilisent toutes leurs forces et ils bougent même pas le vaisseau. Mm-hmm. J'avais remarqué ça.
C'est vrai que je dirais que l'armure ou la coque devrait être un peu plus solide, surtout sur ceux des séparatistes. Mais bon, à moins qu'il n'y ait pas de bouclier, ça me surprendrait, là. Vas-y.
Ouais, c'était le second point, justement. C'est ce qui m'avait interpellé au niveau du rapport de force, mais... Bon, en même temps, ça peut se tenir, hein, de toute façon. Comme tu disais, t'es pas de bouclier, ça aurait été étonnant, mais je sais pas, comme c'était les droïdes aux commandes, ils ont pas tout lancé, j'en sais rien du tout.
Mm-hmm. Ou comme Henri disait, c'est comme un holodrama, donc oui. Ils montent seulement en accéléré. Mais bon, quand même, ça reste un épisode de télé. Donc, ils ont un temps limité, donc ils ont fait ça rapidement, subito presto. Ils ont fait les bombardiers qui bombardent. On n'a même pas vu des essaims de torpilles partir, rien de ça. Puis, je veux dire, ils faisaient juste tirer chacun 2-3 coups de laser dessus, puis ça faisait le travail, là.
J'ai bien aimé aussi la séquence avec tous les droïdes de combat qui se font leur petit conseil de guerre.
D'ailleurs, le capitaine Martuk, il s'est sauvé, lui. Je veux dire, comme tous les Némodiens, dans le fond, on n'a pas vraiment su s'il a réussi à se sauver. Y a-tu la mention si des droïdes qui est parti dans une capsule ou quoi que ce soit?
Ah oui, je crois bien, oui.
Oui?
Je crois bien, oui.
Okay.
Peut-être qu'on aura une chance de le voir parce qu'il a l'air assez un bon personnage, j'ai l'impression.
Pour une fois qu'ils ont un général un petit peu intelligent, là.
Oui, ils ont intérêt à le garder, oui.
Parce que les autres, comme on disait tout à l'heure, où ils sont tués, on les revoit pas. Comme le gros némoïdien qu'on a vu dans Locke Durd, il se fait arrêter alors qu'il était sympa, je sais plus quel...
Ouais, lui, c'était son humour qui était bien, là.
Mais c'est vrai que celui-là, il est sûrement un peu plus intelligent que le reste.
Il me faisait penser à un nazi, avec son espèce de casquette. Il manquait juste l'espèce de palette en avant, mais je veux dire la forme, ça faisait vraiment comme un chapeau nazi un peu, là, une casquette nazi. D'ailleurs, on parlait des canonnières ou des gunships tout à l'heure, ils ont des Twi'leks de peinturer dessus, puis ils s'en vont libérer la planète des Twi'leks, donc comment que les habitants vont voir ça?
C'est pas beau, c'est pas faux.
N'est-ce pas? Mais
ouais,
bon.
J'y pensais pas à ça.
Mais quand même, les bombardiers de la Deuxième Guerre avaient bien des femmes en bikini, puis on est tous des humains, donc c'est pas...
Ouais.
Dans le fond.
D'ailleurs, un autre truc aussi, c'est un peu différent, mais les vaisseaux d'Obi-Wan et Mace Windu, ils arrivent vraiment pile au bon moment. C'est vraiment pas calculé, vraiment pile de chez pile. D'ailleurs, je trouve un peu trop.
La bataille, elle n'est même pas terminée, on dirait, là.
Je trouve qu'ils auraient pu arriver un tout petit peu plus tôt pour au moins se dire « Ah, c'est la fin ». Alors que là, c'est tout juste terminé, ils ont à peine détruit le dernier vaisseau qu'ils arrivent. Bon, je sais qu'il les Jedi ont un bon timing, mais quand même.
En hyperespace, ils ne peuvent pas faire grand-chose quand même, là.
Oui.
Non.
Non, bah, c'était juste un hasard.
Sûrement.
Ben, qu'est-ce qui est étrange, c'est que bon, ils ont une communication avec Mace, Obi-Wan et Anakin. Il dit, ben là, la force s'en vient. On peut pas retarder d'une journée ou quelque chose comme ça. Et puis là, ça, c'est comme si ça se passe immédiatement le lendemain. Ou moi, dans ma tête, c'est même pas le lendemain. C'est comme
oui.
Immédiatement après.
Oui, là, c'est quasiment tout de suite. Oui, bah oui, on va dire que comme ils ont réussi à détruire tous les vaisseaux assez rapidement, ils ont pu laisser la place à ceux qui arrivaient derrière aussi très rapidement.
Ça dépend à quelle distance qu'ils étaient. S'il y avait un long voyage en hyperespace et qu'ils arrivaient. Ils allaient sortir de l'hyperespace seulement dans une journée. Ils pouvaient pas vraiment le devancer. C'est un peu comme dans le Malevolence. Le Malevolence contournait la nébuleuse, avait pas le choix. Il était en hyperespace. C'est là qu'Anakin a coupé au travers pour gagner du temps. Mais je veux dire, une fois que tu es en hyperespace, tu peux pas vraiment, je veux dire, devancer. Tu es déjà en trajet, donc je pense pas que tu peux accélérer ou ralentir. Une fois que t'es dans l'hyperespace.
Non. Ben non, après, si on ralentit trop, on repasse en vitesse normale, je crois.
Je sais aucune idée comment ça fonctionne vraiment, là.
Moi non plus.
On n'a pas vu les Twi'leks parler dans cet épisode-là, parce que j'attends toujours de voir s'ils vont avoir un accent français, comme Alla Secura a eu dans l'épisode Defender of Peace, je crois.
Oui. J'ai crash aussi.
Ouais, c'est ça. Voir s'ils vont avoir cet accent-là. Voir s'ils vont. Ben, c'est un anglais accent français, là, si on pourrait dire, là.
Ben, je sais qu'il y a eu un petit extrait. Enfin, dans les bonnes annonces, on entend la petite fille. Je sais pas si vous voyez qui c'est, qui parle un petit peu, mais je crois pas fait attention à son accent, mais je crois qu'en plus elle parle en Twi'lek, donc.
Ok.
Je crois pas qu'il s'est fait un accent français sur les prononciations Twi'lek, mais j'ai pas fait attention.
J'espère qu'elle.
Enfin, je voulais dire que je pense qu'ils vont sûrement garder une sonorité sûrement identique pour pour la race.
J'espère que la petite s'appellera pas Oula. C'est sûr que ça ferait une référence au retour du Jedi, mais bon, la couleur de peau, je pense, elle n'est pas la même. Donc, mais peut-être qu'il va avoir un caméo quand même.
Elle est trop verte.
Ouais, c'est ça.
La couleur verte change au fil des ans.
Ouais.
Comme les grenouilles. Qui changent de couleur.
Non, ça pourrait être une bonne référence, mais oui, après, faut qu'ils sachent utiliser, quoi.
En plus, c'est vrai qu'en plus, elle aurait pile l'âge, en fait.
L'autre clin d'œil que j'ai bien aimé, c'est le système de communication circulaire qu'il y a dans les control ships, les droid control ships. L'espèce de grand cercle, on voyait le visage d'Anakin, comme dans The Phantom Menace, quand Amidala parle à Newt Gunray, et puis Rune Nako, elle apparaît dans une espèce de grand cercle, comme une Stargate un peu, là. Une espèce de Stargate, ben c'est un peu le même principe, on le voit bien, ils ont repris cet élément-là, exactement le système de communication visuelle dans...
Bah, c'était original, mais oui, vas-y, Henri.
Non, je voulais juste dire que j'ai l'impression que Anakin était vraiment en gros plan, un peu trop gros plan par rapport justement à Amidala dans...
Bah justement, oui.
Ouais.
Il voulait cacher qu'il était seul.
Sûrement, ouais. Sûrement aussi, ouais. Mais je sais pas, ça faisait un drôle d'effet de le voir en gros plan comme ça, son visage.
Oui. Mais moi, ce qui m'a surtout interpellé, c'est pas très grave, mais le fait qu'ils utilisent cet écran pour les communications avec Anakin ou Amidala, par exemple, et que pour le reste, par exemple, pour ceux qui sont sur la planète, c'est un hologramme.
C'est vrai.
Entre guillemets, tout simple. Enfin, comme Sidious.
J'avais
Est-ce qu'il sépare deux types de communication ou non?
C'est vrai, ouais. Quand même. En général, tout le monde utilise les hologrammes, mais c'est vrai. Excellent point, Gaspard, parce que on le voit Wat Tambor, je pense, au début.
Ouais.
Donc,
ouais.
On le voit clairement. Là,
même les droïdes, quand ils sont en train de faire leur petit conseil de gars, ils sont en hologramme.
Mais est-ce que c'est Anakin qui communique avec... ou c'est le contraire?
Ah, peut-être ça aussi, oui.
Si Anakin envoie un signal seulement, bon, mon système holographique étant endommagé, puis-je me servir d'un système plus traditionnel?
On voit bien le petit standardiste, passez, ne bougez pas, je vous passe le némoïdien.
Fait qu'en gros, comme, en tant que tel, l'épisode lui-même, il se complète lui-même. Je veux dire, c'est pas comme si, la fin de la bataille débutait dans le prochain épisode. Donc, l'épisode se complète en lui-même, puis bon, t'as un lien avec le prochain épisode qui est l'invasion. Donc, c'est vraiment, il se tient bien, l'épisode. Il y a pas de trucs négatifs à dire vraiment par rapport à ça. J'ai vraiment hâte au prochain.
Il a quelques petites imperfections, mais j'avoue que j'ai vraiment, en plus, ils sont basés, leurs 20 minutes sur exactement cette bataille-là, donc ils ont pu correctement la développer. J'ai trouvé que le temps était très très bien réparti. Mm-hmm.
Le rythme était égal tout le long.
Oui. Oui, c'était bien, mais, enfin, moi, je mettrais une petite réserve quand même, c'est-à-dire que tu disais que l'épisode se complétait très bien, mais ils annoncent ça comme une trilogie. En même temps, est-ce qu'ils auraient pas eu plus le temps de développer deux trois petites choses enfin c'était un peu des points assez précis comme on a développé, mais si par exemple ils avaient fini l'épisode sur l'explosion du destroyer d'Anakin sur le sur le vaisseau séparatiste pour ensuite faire une sorte d'accroche pour le reste de la trilogie d'épisodes comme ils l'annoncent.
Ouais.
Et pouvoir développer un peu plus d'autres choses, enfin je sais pas.
Bon, on voit que d'après le preview, le prochain, c'est tout simplement ils peuvent pas s'approcher de la planète, donc il faut qu'ils envoient Obi-Wan et des gunships détruire les canons, dans le fond. Mmh. C'est.
Mmh. Moi, je trouvais que l'épisode, je trouvais qu'il voulait vraiment présenter en fait la destruction du blocus. Le second épisode sera sûrement l'arrivée sur la planète et à le dernier, ce sera sûrement la libération, mmh. comme le titre l'indique d'ailleurs. Mmh.
Disons que dans le prochain, ça va être vraiment l'hommage, comme ils disent, débarquement de Normandie. J'ai hâte de voir ça arriver. On voyait dans les previews, je sais pas si c'est dans le preview de la trilogie ou dans le preview de la semaine prochaine, on voit des bunkers, on voit des trucs qui rappellent ça.
On a eu déjà pas mal d'extraits dans les bonus du DVD de Clone Wars, qui avait quelques présentations de la première saison. Il y avait aussi quelques extraits de la trilogie déjà à l'époque.
Mm-hmm. J'ai vraiment regardé à nouveau la preview de la trilogie au complet. Puis une chose que j'avais pas remarqué du tout, qui est un clin d'œil à l'univers étendu mais énorme, c'est on voit Mace Windu faire un Shatterpoint.
Ah oui, sur la vitre.
La vitre, exactement. Il met sa main sur la vitre, puis probablement que dans la force, il trouve le point faible.
J'y ai pensé aussi.
Et puis, il fait son Shatterpoint, et justement, il trouve le point faible, et puis, avec à peine d'effort, la vitre casse. C'est pas nécessairement un force push qu'il fait, c'est vraiment, il accote sa main, il trouve le point faible.
Oui, parce que ça nous fait penser aussi à Anakin, qui, dans l'épisode Hidden Illumi, il coupe la vitre déjà un petit coup avec son sabre, avant de la pousser avec la force. Mm-hmm.
J'ai envie de dire quelque chose, si Louis avait été là, je pense qu'il aurait râlé au niveau de la référence à Throne.
À quoi?
La référence à la tactique du grand amiral.
Ok.
Parce que je pense qu'il y aurait eu un retour de. Ils utilisent l'univers étendu, mais ils le cassent avec Grievous.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai quand même. C'est deux poids, deux mesures, hein. Ils détruisent une partie, puis ils règlent. Ils donnent hommage dans d'autres sens.
Ouais, c'est un peu ça, hein. Ils utilisent le lieu quand ça leur arrange et après ils le détruisent de l'autre côté parce que ça leur arrange plus.
Mm-hmm. Ou sont tout simplement pas conscients de qu'est-ce qu'ils font. C'est ça. Enfin, j'ai bien hâte de voir. Puis je sais pas si Anakin et Ahsoka vont être dans les prochains épisodes parce que d'après les previews, on voit beaucoup Obi-Wan et Mace.
Mace, justement, enfin les previews en tout cas, c'est celle qu'on a eu à la fin de l'épisode, on le voyait qu'en hologramme encore une fois.
Mm-hmm. Moi je suis presque persuadé qu'on va le voir.
Oui, on va le voir peut-être dans le troisième épisode, parce que dans le second on le voyait même dans le vaisseau de débarquement, on le voyait encore en hologramme.
C'est vrai. Probablement que seulement quand Obi-Wan va avoir libéré, voilà, va détruire les canons, là la vraie invasion va commencer. Ouais. C'est là.
Oui.
Pas faux. J'ai pas fait attention à ça.
Je m'en souviens maintenant que tu le dis, là. Mm. Ben, c'est ça. J'ai hâte de voir si Anakin ou Ahsoka vont être là. On sait qu'ils sont dans l'espace. Je suis pratiquement convaincu qu'on va les voir à un moment ou à un autre.
J'ai pas le souvenir de les avoir vus dans les previews de second en tout cas. Mm-hmm. Parce que je pense que c'est surtout Obi-Wan qu'on voit dans les villages un peu abandonnés, plus les clones. Mm-hmm. D'ailleurs, je crois que dans le résumé du prochain que je lirai tout à l'heure, on devrait y retrouver Ahsoka, apparemment.
Parce que peut-être qu'ils vont seulement apparaître dans le troisième épisode, dans le sens que Obi-Wan va aller, dans le deuxième épisode, Obi-Wan va aller détruire les canons au sol, vraiment un épisode Obi-Wan et les clones. Et dans le troisième, là, Anakin et Ahsoka vont débarquer sur la planète avec Mace Windu. Là, pendant que, justement, Obi-Wan faisait ce travail-là, ben Ahsoka, Anakin ont retourné au Resolute, et puis ils se préparent ensuite pour aller aider... Parce qu'on les voit sont encore dans l'espace. Ça dépend, c'est quoi le délai entre les épisodes? C'est-tu immédiatement après? Y a-tu une préparation?
J'espère juste que si on voit encore Anakin et Ahsoka dans le troisième ou dans le deuxième, enfin, je pense plutôt dans le troisième, j'espère qu'ils vont pas trop voler à la vedette à Mace Windu qu'on va enfin voir correctement.
Ouais, enfin, j'espère qu'ils n'ont pas tous les bons bouts qu'on a vus dans le preview avec Mace. J'espère que c'est pas les seuls.
On espère aussi.
On verra bien.
Ça reste quand même un bon hommage à la micro-série Clone Wars qu'il y avait eu avant. L'épisode que Mace Windu était tout seul sur une planète et puis qui détruisait tout. Je sais pas si vous vous en souvenez.
Oui, je m'en souviens très bien, oui.
Donc, on dirait que c'est pratiquement un hommage à ça. On le voit qui saute de petits modules en petits modules et puis il crie vraiment comme un général. Il a l'air vraiment... un super Jedi.
Cette semaine, le 6 mars, sera diffusé l'épisode 20, Innocence of Ryloth, qui est également la seconde partie de cette trilogie Ryloth. Nous devrions y retrouver Ahsoka, Anakin, Obi-Wan, mais également Mace Windu. Voilà le synopsis. Pour saboter une puissante arme séparatiste, Obi-Wan et un petit groupe de clones entrent dans une ville occupée et découvrent que les habitants servent de boucliers humains.
Une autre arme séparatiste.
En fait, je pense que dans le résumé, je pense qu'il parle des canons, en fait.
D'accord.
C'est vrai que s'il y a encore une arme, bon, d'accord. Ça ferait un peu trop.
Parce que quand même, moi, dans ma tête, ces armes-là, c'est les canons anti-aériens, dans le fond, qu'on voit dans le preview. Ouais. Donc, ils sont obligés d'envoyer les canonniers parce que les frégates peuvent pas descendre. Donc, pour moi, c'était ça, les armes. S'il y a d'autres choses, ben là, ça reste à voir.
En tout cas, en anglais, c'est « to sabotage a powerful separatist weapon ».
OK,
donc,
ouais,
il est pas marqué avec un S. Donc...
Ça doit être quelque chose de plus gros.
C'est pour ça que j'avais traduit au singulier. Donc, on verra. Enfin, c'est sûr qu'il y a encore une super arme. Bon, ils en auront vraiment la paix, là.
C'est comme dans l'univers étendu, l'arme du mois. Weapon of the week.
La seconde étoile noire, le destructeur de soleil,
ouais.
Le sabre noir.
Exactement. Et tous les virus qu'on a eus.
Les virus informatiques, les virus bactériels.
On finit par trouver quelque chose d'original. Il y avait les Yuuzhan Vong à une époque.
Ouais.
Donc c'est original un petit peu, mais bon.
Faut trouver aussi un truc qui marche parce que ça marche rarement. On peut peut-être juste préciser que le DVD est sorti en France hier, enfin mercredi 4 mars. Donc vous avez le choix entre la version simple qui comprend juste les bonus, le bonus du commentaire audio, et pour avoir les bonus, il vous faut acheter la version Blu-ray, qui est évidemment plus chère. Et donc foutage de gueule de la Warner parce qu'évidemment dans tous les autres pays la version double DVD était disponible, qui comprend également les bonus.
Mm-hmm.
Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire.
Mm-hmm.
Donc, si vous avez des commentaires ou suggestions de sujets, laissez-nous un message sur notre boîte vocale Skype à l'usager SW en direct ou écrivez-nous à l'adresse studio@swendirect.com. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook de la version française de Star Wars en direct et suivre nos faits et gestes sur Twitter. Ne manquez pas Star Wars en direct édition Clone Wars la semaine prochaine qui sera consacrée à l'épisode Innocence of Ryloth. Et suivant l'émission du 15 mars qui sera le deuxième émission de Star Wars en direct, l'édition de mars 2009. Donc, merci à Gaspard et Henri. Et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.